Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, bonne année 2024. On se retrouve pour le premier épisode de l'année 2024. Voilà, quelques jours post-réveillon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en santé, que vous êtes en forme mentale et physique pour commencer ce début d'année. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie évidemment toutes mes ondes pour que ça aille mieux le plus vite possible. Cet épisode sort un peu des échanges peut-être plus formels que je peux avoir avec certaines invitées. Dans cet épisode, j'échange avec Manon Lucas, que vous connaissez peut-être plus sous le compte Instagram Le Cul Nu, qui a aussi eu un podcast, qui a écrit un livre, qui fait plein de chouettes choses. Et on s'est rencontrés lors d'une formation pour devenir coordinatrice d'intimité, ce nouveau métier qu'on entend un petit peu parler depuis ces dernières années avec Sex Education, Post-MeToo, etc. Manon, elle est bordelaise et elle dit chocolatine, mais elle est aussi créatrice de contenu et elle parle de culture de cul. C'est surtout très intéressant parce qu'elle le fait avec beaucoup de légèreté et d'humour. Elle a écrit un livre, comme je l'ai dit, qui s'appelle « Le cul mis à nu », le livre qui déculotte nos idées reçues. Elle a aussi fait un jeu de société. Bref, Manon, elle fait plein de choses en termes de contenu sexo-éducatif et c'est souvent très pertinent, très intéressant pour l'audience parce que, comme je disais, elle le fait avec humour, légèreté et qualitatif. Donc, dans cet épisode, on va échanger ensemble de manière très cool, détendue, autour de la dernière formation que nous avons faite ensemble en anglais pour devenir coordinatrice d'intimité. On va répondre aux questions qui reviennent le plus souvent avec ce métier. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce métier de coordinatrice, coordinateur d'intimité? Si vous ne connaissez pas, on va vous donner notre définition. Quel est son rôle? À quoi ça sert? Dans quel milieu, en fait, on peut faire appel à ce genre de professionnel? Quelles sont les limites? Comment cette profession est-elle vue, perçue? Et en toute fin, on vous parlera de nos grands rêves. On passera évidemment aussi par la case télé-réalité que Manon connaît bien. Bref, cet épisode est passionnant, tout en échange. J'espère que vous passerez un bon moment. Avant d'aller plus loin dans la conversation, je voulais vous parler du lancement de mon Patreon. Il y a un premier abonnement pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir le podcast. Vous qui l'écoutez depuis le début, quelques mois ou aujourd'hui, vous pouvez le soutenir financièrement chaque mois. et un autre Patreon pour les experts, les sexperts et sexpertes, les professionnels de la santé qui accompagnent les patientes, les clients sur des thématiques sexo, d'intimité et de relations comme les sexologues, comme les thérapeutes de couple, comme les sages-femmes, comme les doulas, comme plein d'autres professions. Ce sont des rendez-vous mensuels où on se retrouve entre professionnels pour échanger sur nos pratiques, des cas cliniques, pour poser nos questions, les thématiques et faire émerger l'intelligence collective. Et en plus, vous avez accès à une communauté privée engagée pour ne plus jamais rester seul dans sa pratique. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Allez, place à l'écoute. Manon, je suis trop contente qu'on ait cette conversation comme ça. Là, on va échanger ensemble de manière très cool, détente, pour parler de cette nouvelle corde à notre arc, hein, ce métier absolument de coordinatrice d'intimité.
Absolument, on regarde, comme on est fiers de nous.
On est trop fiers parce que on a suivi cette formation qui était en anglais. On est encore très peu en France, finalement, à se former et à faire ce métier de coordinatrice d'intimité. Je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main.
Ouais, et puis même à le connaître, hein, au-delà de se former, même à le connaître, c'est pas... Là, tu vois, on en parle un peu parce qu'il y a eu un documentaire sorti et tout, mais sinon, c'est pas encore ancré dans la culture, quoi.
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, du coup, on va aller tout de suite dans le vif du sujet pour pas perdre les personnes vis-à-vis de ce métier. On va essayer de définir comment on définirait ce métier de coordinatrice d'intimité.
Oh, alors, pour moi, le rôle de coordinatrice d'intimité, c'est une personne tierce qui n'appartient ni à la prod ni au performeur, mais qui est là pour s'assurer et, on va dire, installer un climat de bienveillance par le recueil de consentement de chacun et chercher à co-créer quelque chose en s'adaptant aux besoins de chacun et aux demandes de chacun. Donc, ça peut être des scènes d'intimité, des scènes de violence, dans du cinéma, dans du théâtre, dans du... on en parlera aussi, mais dans de la pornographie. L'idée, c'est de définir des limites pour savoir où est-ce que l'on peut justement jouer et exacerber sur sa créativité.
Mais génial, quelle définition! Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute de plus?
Oh, j'ai même pas révisé!
Arrête!
Ouais, voilà, non, mais c'est un peu ce qu'on nous a. En fait, dans la formation, on nous apprenait justement à comprendre cette définition, et plus tu la comprenais, plus tu pouvais, tu comprenais un peu comment tu devais travailler, en fait.
Ouais, et puis même de comprendre dans quel milieu on peut travailler, parce que c'est vrai, moi, en entrant dans cette formation, je me disais, bon, il n'y a que dans le porno, parce qu'il y a tellement à faire, du coup, de s'assurer du consentement des acteurs, des performeurs, de pouvoir faire en sorte que tout aille bien, qu'il y ait la sécurité, de pouvoir faire attention aux tests VIH, à la santé sexuelle, à tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, on peut travailler dans le cinéma, dans le théâtre, dans les comédies musicales, dans les plateaux télé, dans plein de choses, en fait, qui, dès qu'il y a des scènes d'intimité, et même scènes d'intimité, tu vois, j'ai même appris que là, on pense scènes d'intimité, de la sexualité, de l'érotisme, mais ça peut être même un acteur dans un film qui, sa scène, c'est, il doit être aux toilettes, par exemple, ou une actrice qui a ses règles. Eh bien, c'est une scène d'intimité aussi.
Ah ouais, complètement, et tous les, tu vois, je sais plus, c'était une des élèves qui en parlait, les scènes avec les médecins légistes, et donc il y a un faux cadavre, enfin, en gros, je pense qu'on a oublié le concept même de l'intimité, tu vois, on en parle beaucoup dans la vie en général, mais on a oublié que tous les acteurs du divertissement mettaient leur intimité de côté, au détriment parfois de leur bien-être, sur des tournages pendant des scènes comme ça, peu importe ce qu'on leur demande de faire. Donc l'idée, c'est de replacer un peu ça. Mais tu vois, les personnes pensent direct qu'on va être dans la restriction, en fait, que l'on va direct mettre que de l'interdit, alors que justement, en mettant des limites, tu sais un peu plus sur quoi tu peux jouer. Et si la personne est d'accord pour montrer une partie de son corps, ben justement, on peut imaginer plein de choses autour de cette partie du corps. Et je pense justement que ça permet, en réinstallant ça, d'être encore plus... d'être encore plus proactif, quoi, dans ce que tu veux faire, quoi, d'être encore plus efficace, quoi.
Totalement, c'est de jouer avec les contraintes en s'assurant que finalement l'expérience, elle soit la plus agréable possible, que ce soit du coup pour les acteurs actrices, mais aussi pour la production. On est, complètement. Tu disais, on est ce tierce, donc on du coup, on n'a pas d'enjeu aussi, on n'est pas dans ce rapport de pouvoir finalement.
Complètement.
Parce que quand on est, je sais pas, une actrice, notre employeur, c'est le producteur. Enfin, tu connais mieux que moi ce domaine-là, donc tu pourras mieux le dire. Mais du coup, il y a des rapports de pouvoir qui s'installent. Et des fois, même si on dit « mais oui, elle peut faire ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, elle nous le dit », ce n'est pas si évident quand on sait que peut-être des fois, notre salaire ou notre réputation peut jouer à finalement, si je refuse quelque chose, je serai peut-être radiée des listes et on ne m'invitera plus jamais sur un tournage.
Ben c'est ça, en fait, c'est de la vraie collaboration, pour une fois, avec différents parties qui ont différents intérêts. Donc, d'un coup, ben c'est ça, le producteur, lui, qui veut sa scène extrême, qui veut un peu voilà, dépasser des heures de travail pour continuer à faire cette scène extrême, etc., etc., ben il n'a pas le même intérêt que l'acteur qui est là pour jouer sa scène, qui va tout donner, mais qui est aussi fatigué, qui est aussi... Donc en fait, l'idée, c'est de voir un peu les intérêts de chacun et de créer une, voilà, on va dire un consensus parfait où on ne négocie pas avec avec le bien-être de chacun, mais on fait tout pour mener à bien le projet, quoi. Mais le truc, c'est que c'est encore, tu vois, je pense que c'est pas encore très bien compris en France parce qu'on a beaucoup cette culture du le cinéma français, les productions françaises, c'est un trésor du cinéma, c'est quelque chose qui ne se dérange pas, ouais, qui ne se touche pas parce que c'est déjà bien installé. Et tu vois, on l'a vu dernièrement avec Depardieu, je veux dire, ça fait des années qu'il y a
bien là-dessus.
Tu vois, voilà, qu'il y a des tonnes de personnes qui en parlent. Et finalement, c'est juste le militantisme féministe qui a fini par bouger les lignes. Mais en soi, ce qu'on entend là, ça fait des années qu'on en parle et c'est la preuve un peu du côté sacré, tu vois, de ce cinéma, de cette industrie, quoi, tu vois.
Mmh. Oui, et en voyant justement plein d'histoires comme ça, bah, comme Depardieu, Gérard Depardieu, où je me dis, mais en fait, il y aurait eu, hypothèse, hein, mais est-ce que s'il y avait eu des coordinatrices d'intimité ou coordinateurs d'intimité sur le plateau, on aurait pu éviter, on peut éviter des Gérard, c'est-à-dire on peut éviter des experts. Alors bien sûr, les coordinatrices d'intimité ne sont pas là à suivre les gens aussi en dehors des plateaux, donc, parce que des fois ça se passe aussi en dehors des plateaux, mais souvent ça peut se passer même à la vue de tout le monde. Je pense qu'il y a plein de choses qui auraient pu être évitées, rien que des fois de se dire sur un plateau, il y a un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité. C'est aussi prôner finalement le respect, le bien-être, de remettre les choses à leur place et donc des fois de déstabiliser hein, certaines
complètement,
personnes.
Complètement.
Ou comme tu disais, certaines choses on ne touche pas, quoi, on ne touche pas au cinéma français, on ne touche pas à tel acteur ou telle actrice. Non, ils passent au-dessus de tout. Et donc vraiment de se dire, est-ce que toi, à ton avis, ça peut éviter des Gérard sur le plateau ou des situations telles qu'on voit aujourd'hui où il y a des... on va appeler dérapage, mais non, des agressions sexuelles, des viols même qui peuvent se passer.
Ben, je pense que Gérard Depardieu, il est devenu comme ça aussi parce qu'on ne lui a jamais rien dit. Je ne pense pas qu'il ait eu ce comportement... alors, je ne fais pas l'avocat du diable, mais je ne pense pas qu'il ait eu ce comportement à ses premiers tournages. Au final, c'était un acteur comme tout le monde qui est arrivé, qui a voulu se démarquer, qui a dû jouer, machin, machin. Mais à force d'être sur les tournages où tout le monde... t'idolâtre et personne ne te dit rien quand tu mets une main aux fesses, quand tu mets machin, tu deviens ce Depardieu que l'on connaît où le mec est devenu complètement out la réalité, out ne serait-ce que la bienséance parce qu'il n'y en a même plus, et tu tombes dans de l'agression parce qu'en fait on t'a jamais dit non et qu'on t'a jamais dit ce qui voilà, là où il fallait t'arrêter, en fait tu mets des limites, tu deviens Gérard Depardieu. Donc je pense que oui, plus t'interviens sur des fictions ou du porno ou bref, et plus tu dis attention, non, ça non, voilà ce qu'on peut faire si tu veux te sentir aller sur ça, machin, enfin bref, d'essayer d'encadrer et de donner d'autres manières de faire les choses, je pense que oui, ça peut te permettre d'éviter de tomber dans ce piège du « je suis une personne qui ne sera jamais punie pour ce que je fais ou ce que je dis ». Et bon, il y a Depardieu, mais Bec Bédé, tout ça, en fait, ils ont un point commun aussi, ces hommes-là. Bon, c'est des hommes majoritairement. C'est des personnes qui ont grandi dans une génération où on idolâtrait beaucoup les personnes qui allaient dans la provocation. Parce que c'est comme ça qu'on existait sur le petit écran, etc. Aujourd'hui, l'industrie change. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de l'acteur qui en fait des caisses, mais on veut entendre parler de celui qui bosse bien et de celui qui prend soin de ses performeurs, du réalisateur qui prend soin de ses performeurs, tout ça, parce qu'on en a marre d'entendre d'autres choses. Donc, je pense qu'on fait tout pour éviter la naissance de Todd Gérard Depardieu, je pense.
N'importe qui, hein, mais on pourrait dire dans ce milieu, voilà, les acteurs, actrices testent les limites. Et puis, s'il n'y a pas de réaction, alors, bien sûr, il y a les actrices qui peuvent dire non. Mais des fois, c'est tellement, en fait, bon, bah, c'est qu'une femme ou je m'en fous, je passe au-dessus. Mais si le groupe de pairs ou les supérieurs mettent des limites, disent, bah non, ça ne se fait pas. Et tout le monde, il y a le consensus que ça ne se fait pas et ça va être réprimandé. Je pense que ça freinerait beaucoup de comportements.
Bien sûr, mais est-ce que finalement, les équipes ne sont pas aussi parfois les personnes qui encouragent ce genre de comportement? Parce que quand tu es sur... Alors, bon, moi, c'est particulier parce que j'ai travaillé dans la télé-réalité, donc c'est un milieu très particulier. Mais typiquement, c'était souvent les équipes technique aussi, qui voulait de la scène, qui voulait de la performance à l'écran, qui poussait à ça. Mais en fait, ce n'est pas forcément des gens mauvais, c'est des gens qui étaient dans une dynamique, dans un engrenage où ils ne se rendaient plus compte. Alors, encore une fois, je ne cherche pas à faire leur défense, pas du tout, mais qui ne se rendaient pas compte de la gravité de ce qu'ils demandaient. Parce que c'était des gens qui faisaient des horaires de 8h jusqu'à 2h du matin, qui dormaient à peine, et quand ils dormaient, on pouvait les appeler à tout moment. Enfin bref, ils faisaient des horaires de malade, qui avaient un rythme effréné. Et donc, parfois, en fait, bah ouais, ils étaient là. « Oh, toi, tu veux pas faire ça? Tu veux pas aller l'embrasser, là? Pas surprise, vas-y, là, il faut qu'on fasse une scène. » Parce qu'en fait, ils ont un rendu à faire, et les mecs, ils se rendent plus compte de ce qu'ils font. Je dis pas que c'est pareil dans le cinéma, mais je pense que, pareil, chaque place sur un tournage vaut cher. Donc, soit tu vas dans le sens aussi du mec un peu alpha, du Gérard Depardieu qui a 30 ans de carrière et qui est en train de vanner la petite stagiaire, soit t'es l'ingé son qui dit par contre c'est un peu abusé et qui risque de se faire dégager du jour au lendemain et tu vois, ça vaut trop cher comme place quoi.
Ouais, il y a la peur derrière ça, on va revenir là-dessus, mais c'est vrai que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui voudraient un petit peu plus savoir notre parcours, comment on en est arrivé là finalement, parce que tu l'as un petit peu nommé, mais je me dis, bon bah revenons aux bases, comment on en est arrivé là à devenir coordinatrice d'intimité? On fait un petit condensé, un petit résumé, oui. Vas-y Manon.
Oui. Ben moi en fait quand je suis arrivée à Paris, j'ai envoyé je sais pas combien de candidatures à tout et n'importe quoi si tu veux savoir. Je pense que j'ai dû faire partir 500 mails pour avoir un stage quelque part et en fait j'ai été prise dans une production de télé-réalité qui s'appelait Les Anges à l'époque, l'émission c'était Les Anges.
Je regardais.
Ouais, mais tout le monde regardait. Et c'était l'époque où ça commençait un peu à baisser, tu vois. C'était pas le Golden Age ou saison 5 et 6 où les mecs ils étaient en explosion. C'était juste après, c'était la 9 et 10, où il y a eu d'ailleurs des problèmes de harcèlement sur le tournage, etc. Mais bref, j'avais été appelée là-bas et c'est vrai que j'ai assisté à des choses assez incroyables. Et il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque et que je faisais déjà l'éducation sexuelle aux candidats de télé-réalité. Qui me disait des trucs en mode bah non, mais là, si je fais une fellation, c'est bon, il n'y a pas besoin de capote. Et je tabasse, on va reprendre les bases. Donc, bref, après, quand j'ai quitté staff, j'ai lancé le CUNU, mon compte Instagram, où derrière, bah, en fait, je me suis amusée à aborder plein de sujets autour de la culture, de la sexualité, qui me passionne depuis des années. Et j'ai fait mon chemin là-dedans. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai eu un peu des questionnements en me disant, mais cette année-là que j'ai vécue, dans la télé-réalité, est-ce que c'est pas, pour moi c'est peut-être pas arrivé par hasard et peut-être qu'il y a des choses à faire parce que on peut dire ce qu'on veut, la télé-réalité c'est une industrie très méprisée mais qui pourtant cartonne, qui est très moquée, très mal encadrée, mais qui brasse énormément d'argent et qui chaque année fait toujours plus de millions de téléspectateurs. Et en plus aujourd'hui avec l'arrivée des plateformes, il y en a de plus en plus, tu vois, et toujours plus trash, toujours plus, on le voit avec Frenchy Shore, tout ça. Donc je me suis dit, je crois que j'ai envie d'intervenir dans ces milieux-là et de changer un peu les règles du jeu. Il y a aussi que j'ai beaucoup d'amis travailleuses du sexe et qui me racontaient un peu leur expérience dans le porno et j'avais aussi envie d'intervenir. Donc je me suis dit, coordinatrice d'intimité, sachant que c'est très sur l'humain, ça me plaît bien. Et donc on m'avait conseillé Red Chicks, la formation qu'on a fait ensemble, toi et moi. Et je me suis dit, voilà, en effet, le cinéma, tout ça, ça me fait rêver aussi parce qu'il y a un peu ce côté où c'est beau, c'est bien, c'est génial, c'est créa. Mais ma guerre, ça serait télé-réalité porno pour l'instant où j'ai envie de changer un peu les règles du jeu, quoi.
Mais grave, la télé-réalité, tu vois, bah pareil, c'est en discutant ensemble, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai, et ouais, faut que t'ailles dans ce domaine-là aussi, parce qu'il y a tellement de choses à changer, on reviendra là-dessus aussi, mais comme tu disais, des choses où dès 20 ans, tu voyais des choses qui n'allaient pas, tu faisais déjà de l'éducation sexuelle, et puis quand on est une personne, en plus à 20 ans, une femme qui essaye de tout changer, c'est difficile. Et on verra avec la casquette de coordinatrice d'intimité, c'est pas toujours plus évident non plus.
Non.
Et puis pour revenir, moi sur mon parcours, du coup quand j'étais en master en psychologie, j'avais qu'une envie, c'était de partir apprendre l'anglais, donc je suis allée aux États-Unis et j'avais déjà ce rêve de devenir sexologue, mais je connaissais personne à ce moment-là qui faisait ce métier-là. Et moi, je crois beaucoup aux signes. Donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, sur New York Times Square, il y avait la série Master of Sex. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Oh, oui.
J'arrive le premier jour aux États-Unis, je vois ça en grand comme ça et je fais oh, un signe. Ensuite, j'arrive dans la famille parce que j'étais jeune fille au pair et la grand-mère est sexologue et elle a été étudiante de Master et Johnson. qui sont les pionniers en sexo.
Oh, donc mais non
là, bam
bam.
J'étais là, waouh. Et puis, du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Donc, j'ai fait sur les campus américains de Sex Education, quoi, vraiment ouais, comme ouais. dans la série où on me dit, bon, bah, votre devoir pour ce soir, c'est d'aller prendre un miroir, regarder votre vulve, dessiner, et puis demain, en classe, vous nous montrez ce que vous avez fait, quoi.
Ah, c'est génial. J'adore.
J'étais là, mais waouh, déluant, quoi. Je me disais, mais ça, en France, on le ferait jamais, quoi.
Jamais, mais jamais. Mais jamais, loin.
C'était, ça, c'était les États-Unis. Et puis ensuite, une formation de 7 mois en coaching en sexualité, la méditation orgasmique, où là, avec des inconnus, je vais pratiquer ça, où il y aura stimulation du clitoris, enfin des trucs, expérience transformative. Et de me dire, bon, bah, avec tout ce développement personnel, ce coaching, prise de confiance en moi et d'estime de moi, allez, je viens en Europe et je trouve comment accéder pour faire ce métier-là. Bref. Plusieurs années plus tard, je deviens sexologue clinicienne et ça faisait un moment, bah, depuis que j'ai découvert en fait Erika Lust, parce que j'ai découvert ce métier de coordinatrice d'intimité via les films d'Erika Lust et je crois autre part aussi où j'ai entendu Sex Education, où aussi j'ai entendu ce métier-là.
Et bien sûr, oui.
Et je me suis dit, mais le cinéma, alors, je ne sais pas, peut-être que beaucoup de petites filles ou d'enfants rêvent de ça, mais moi, c'était mon rêve de passer des castings quand j'étais petite, d'être derrière la caméra. Mais j'avais pas le réseau, tu vois.
Écoute, j'ai pas percé.
J'ai pas percé, il y avait deux talents, mais il me manquait
le réseau. Attends, la vie t'a envoyé 1000 signes pour que tu deviennes sexologue. Je veux dire, au bout d'un moment, ils ont dit, tu veux des signes, écoute, on va te le mettre sur Times Square et tu vas comprendre qu'il faut arrêter les castings et être sexologue pour sauver une partie du monde. Et voilà, tu vois,
très bien. Et la coordinatrice d'intimité, c'est un peu associé encore plus de passion, tu vois, la sexo, et puis à le métier cinéma, acting et même autre, hein, théâtre, j'ai fait du théâtre aussi, donc voilà, et je me suis dit, puis de fil en aiguille, j'ai été invitée par Izzy qui fait cette formation-là pour participer à son podcast, et c'était en plus à la période où je me disais, tiens, j'aimerais bien faire une formation, mais j'en trouvais pas.
Ouais. Bah, c'était dur à trouver, on est d'accord. Hein.
Ouais, on est très d'accord, dur c'était dur. Ouais, ouais. En français, laisse tomber, mais en anglais, c'était dur.
C'est dur déjà.
Et elle m'invite sur son podcast, puis je fais des recherches évidemment sur qui elle est. Et là, je fais, mais bordel, elle propose une formation sur l'intimité et de coordinatrice d'intimité, exactement. Et donc, bam, 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 paf, j'étais
et
là.
Bim. Ah, mais pareil, moi, j'ai galéré à trouver des formations. Hein. Et j'ai trouvé parce que j'ai un ami qui travaille au journal du Hard, donc il passe sa vie à rencontrer des travailleuses du sexe, machin, et quelqu'un lui a dit, mais en fait, il y a un truc qui existe par Easy, qui s'appelle Red Chicks, machin, mais sans lui, je n'aurais toujours pas trouvé la formation. Enfin, j'ai vraiment galéré, quoi. J'avais trouvé une formation à genre 6000 euros, mais les mecs, ils proposaient carrément des cours d'éducation à la sexualité. J'étais, ah, vous êtes sympa, mais j'en ai pas besoin. Enfin, c'est mon métier depuis des années, donc là, c'est con. Oui. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'était quand même très dur à trouver.
Ouais. Et on a déjà effectivement notre... Alors, c'était intéressant parce que dans cette formation, du coup, il y avait plein de milieux. Il y avait quand même beaucoup plus de personnes qui venaient du milieu cinématographique. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais des producteurs, réalisateurs, même des performeuses. C'est ça,
Oui, oui, des performeuses et des performeurs. Ici, on avait beaucoup de gens qui venaient en fait, du milieu de la prod et de la création audiovisuelle.
Voilà. Et nous, on était peut-être les deux seuls qui venaient du milieu un peu plus sexo. Et toi, qui avais la casquette aussi, où tu connais ce milieu-là. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre un petit peu tout ça. Mais donc, c'est pour montrer aussi que le métier de coordinatrice d'intimité, il y aura aussi plein de background, de casquettes aussi. Et qu'en fait, finalement, ça va être intéressant aussi sur les plateaux. On parlait aussi du coup de cette révolution. C'est vrai que des fois aussi, en tant que coordinatrice, coordinateur d'intimité, on peut avoir aussi cette intention de venir révolutionner un milieu, venir révolutionner le milieu de la télé-réalité, du porno, de faire que tout soit dans le consentement, que tout soit rose, tout soit bien. concrètement, en réalité, qu'est-ce qui se passe?
Bref, en réalité, c'est que, encore une fois, il faut être... Enfin, tu vois, c'est pour ça que parfois, quand on faisait des exercices théoriques, on essayait aussi d'être terre à terre. C'est que souvent... Alors, il y a des prods qui veulent sûrement être éthiques. Hein, y en a sûrement beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup d'intérêt marketing. Quand un réalisateur ou un producteur t'appelle en disant « Oui, mais est-ce que derrière, tu peux communiquer sur tes réseaux pour dire qu'on a fait appel à une coordinatrice d'intimité, en gros, pour faire une bonne pub, alors que derrière, sur le tournage, il va pas... collaborer avec toi et essayer de créer quelque chose avec toi. Je pense que c'est hyper important d'avoir cette conscience où en fait, ce n'est pas parce qu'on fait appel à nous, c'est pas parce qu'on nous parle, on nous appelle, qu'il y a une volonté directe de co-créer et d'être dans une bienveillance. Il y a un intérêt marketing. Dire qu'un tournage a fait appel à une coordinatrice d'intimité, c'est une vitrine presse énorme et hyper importante et qui, en fait, parce que la réalité, c'est que le public est très sensible à l'éthique parce que l'éthique se fait rare. Donc voilà, quand tu dis ça sur ton film ou sur ta prod de porno ou sur ton émission, eh bien, les gens viennent. Et même s'ils n'aiment pas ton programme, ils t'apprécieront parce que tu as fait un geste, tu as eu une initiative intéressante. Donc, c'est hyper intéressant d'être... tu vois, on le faisait parfois dans les exercices avec Izzy, hein, où elle était là, voilà, comment vous allez convaincre une prod de...
Un producteur réticent.
C'est ça, un producteur réticent. Ben, en fait, parfois, il faut juste se mettre un peu à sa place. Et donc, ne serait-ce que le mot révolution, comme tu dis, ça peut les faire un peu bander mou et ça peut les pousser, tu vois, à s'intéresser à ce que tu fais. Mais est-ce que derrière, vraiment, il y aura un travail de collaboration? C'est plus compliqué.
Ouais, c'est plus compliqué parce que ça fait peur aussi, le mot révolution. On est bien comme ça, on fait bien. Et puis, c'est pas ce nouveau métier qui va nous apprendre notre métier aussi. Hein. Il y a de l'ordre de ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi. C'est une réputation pour les films. Il y a un intérêt marketing puisque de plus en plus, le public est au courant de behind the scene et donc veulent des choses un peu plus éthiques. Même rien que tu vois, de se dire sex education, il y a des coordinatrices d'intimité. On se dit waouh, mais trop bien. Donc, ils sont vraiment dans le respect. Je pense que ça aide aussi à tout ça. Déjà, la qualité, je pense aussi, mais indirectement, de se dire waouh, je regarde quelque chose où je me dis ça a été vraiment pensé en détail. Mais effectivement, on en parlait en off, où j'avais été contactée évidemment par un producteur qui voulait une coordinatrice d'intimité. Et de par nos échanges, en fait, je voyais très bien qu'il ne voulait pas vraiment collaborer avec moi, ni même que les actrices avaient envie de collaborer avec une coordinatrice d'intimité. Donc, en gros, quel était mon rôle, si ce n'est juste d'avoir le nom on a une coordinatrice d'intimité, c'est génial, on valide et bam.
Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que toi, ça te met en porte-à-faux, t'as envie d'y croire, en échec, et en fait, tu vas, comme t'as dit en off, tu vas donner beaucoup d'énergie, ça va te pomper tellement de temps, d'énergie, qu'en fait, tu vas être vidée et que derrière, t'es pas certaine que le travail ait été fait de manière efficace et comme tu souhaiterais le faire et comme tu penses qu'il est préférable de faire. C'est un peu, après, c'est comme tous les métiers qui émergent, tu vois. En France, c'est très récent par les coordinations d'intimité. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est déjà un peu plus installé. Je crois même qu'au Royaume-Uni, il y a des productions qui ont des aides financières quand ils font appel à des coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Donc, c'est pour te dire combien les mecs, ils ont beaucoup moins de temps que nous.
Et ils ont compris le game aussi.
Ils ont compris le game et nous, on est toujours là. Mais Gérard Depardieu, il n'est pas si méchant. Donc, voilà, c'est super.
Ou j'ai pas de budget.
J'ai pas de budget, donc désolé. Donc, t'es là, bah, super. Non, ça met encore du temps. Et donc, forcément, c'est compliqué. Pour le public parfois de comprendre, c'est compliqué pour les productions de comprendre et c'est compliqué pour nous de comprendre aussi que tout ne sera pas rose et que parfois on va nous mettre des petits croche-pattes et que ton nom ou ton travail pourra être utilisé aussi à mauvais escient parce que ça reste très très nouveau et que tout est possible encore.
Ça reste nouveau, le métier aussi peut être mal vu. Attends, j'ai écouté un podcast justement là-dessus. Et c'était quoi l'histoire qu'en fait, ils avaient invité une coordinatrice d'intimité sur un programme télé. Ouais. Et qu'en gros, elle n'avait pas laissé faire et c'était tout à son honneur une scène qui se passait, sauf que la production n'était pas d'accord. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enfermé dans les toilettes la coordinatrice d'intimité.
Oh, mais ça va pas!
C'est pour dire à quel point, et du coup la presse a rigolé maintenant, du coup on en parlait aussi dans notre formation, mais ce métier peut être aussi vu un peu, on s'en contrefou, et puis on se sent légitime d'enfermer cette personne-là dans les toilettes, quoi.
Mais ça va pas, mais ils sont zinzin. Alors tu te dis, s'ils font ça, non, parce que moi il y a quand même ça aussi, c'est s'ils font ça à une nana qui est censée créer, voilà... cette coordination, c'est-à-dire que dans le travail, normalement, ils sont censés l'avoir rencontrée en amont, avoir travaillé avec elle, avoir discuté avec elle de comment ça se fait. Donc, ils savent un peu à quoi s'attendre. Normalement, c'est le process. Hein. Je pense qu'elle l'a quand même bien fait. S'ils sont capables de l'enfermer dans les chiottes, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aux performeurs et performeuses? Parce que, tu vois, justement, dans la télé-réalité, j'avais assisté à pareil, des gens qui enferment les candidats ou alors à l'inverse, qui enlèvent les clés, donc les candidats et les candidates ne pouvaient plus s'enfermer dans les chambres alors qu'ils avaient des rapports sexuels et à tout le monde, n'importe qui pouvait rentrer. Enfin, tu vois, tu te dis, s'ils sont capables de ça, ils sont capables de quoi d'autre avec leurs intervenants, quoi, tu vois.
Ouais. Oui, que comme tu disais au début, en fait, on passe par ce qui marche, ce qui fait des vues, ce qui fait le buzz, ce qui rapporte de l'argent, versus en face de nous, on a une personne, une humaine, un humain, qui a des émotions, des sentiments et qui peut être très fragilisé aussi par ce qui se passe. Hein. Et puis, il y a eu des histoires aussi hein, qui montrent qu'il y a besoin aussi d'un suivi psy, peut-être tout du long, tellement c'est intense, tellement on est enfermé, tellement... Et là, c'est que la télé-réalité. Hein. Mais c'est peut-être la même chose dans les tournages où des fois, c'est à l'étranger, on est toute une équipe pendant plusieurs mois, H24 à travailler, il y a la fatigue, il y a ce groupe, il y a cet effet de groupe et donc difficile des fois de s'en sortir de ce groupe-là et de s'affirmer individuellement.
Bah complètement, et en fait, il ne faut pas oublier que l'intimité, c'est quelque chose de très très individuel, donc une personne peut se sentir hyper à l'aise pour... par exemple, pour des partager ne serait-ce que ses limites sur l'intimité en disant bah, « tu vois, non, j'en peux trop quand tu me touches là ». Et d'autres personnes qui ne savent même pas ce qu'elles aiment ou pas et sur quoi elles sont à l'aise ou pas. Et en fait, même sans être... tu peux être le plus bienveillant du monde. Tu vois, un partenaire, un acteur partenaire avec une actrice, tu peux être le plus bienveillant du monde. Tu peux quand même marquer cette personne par des gestes ou par des mots sans t'en rendre compte et pour autant avoir voulu bien faire. Tu vois, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont été marquées ou traumatisées alors que d'autres personnes cherchaient à être bienveillantes. Enfin, en gros, c'est juste que est-ce que c'est la responsabilité des performeuses de s'assurer que tout le monde autour aille bien et que tout se passe bien ? C'est plus la responsabilité de l'équipe, mais est-ce que l'équipe, ils en ont quelque chose à foutre puisque eux, ils sont là pour faire de l'image et ils doivent produire en peu de temps, ils ont beaucoup de pression, etc. Encore une fois, c'est un conflit d'intérêts et donc on ne peut pas s'assurer que tout le monde vive bien l'expérience, quoi. Tu vois, c'est compliqué en fait. Donc c'est normal de donner ça à une personne tierce en fait, c'est plutôt, je trouve ça plutôt logique. Mais si tu en arrives à enfermer la personne parce que tu t'entends plus avec elle, c'est que de toute évidence, il y a un problème dans la collaboration et donc ça va se ressentir dans le projet, tu vois.
Voilà, donc c'est dans la confiance, la communication, la collaboration, c'est contre-productif.
Mais sans enfant. Je te jure. Non, mais...
C'est peut-être aux États-Unis aussi. Mais bon, ça pourrait se passer. Enfin, tu vois, on entend de tout et donc évidemment que ça peut se passer aussi en France. Comment, à ton avis, on peut faire en sorte de sensibiliser d'une part l'équipe de production, c'est-à-dire d'être en confiance avec nous, de comprendre notre rôle et d'être même nous prendre, voilà, nous dire oui, venez, etc. Et en même temps aussi, les acteurs ou les travailleuses du sexe ou les performeuses, j'ai le mot en anglais à chaque fois, à nous faire confiance aussi, parce qu'il y a de ça aussi. Hein. Des fois, il peut y avoir la production qui nous veut, mais pas l'équipe. Et inversement, des fois, ça peut être l'équipe et pas la production. Comment on peut sensibiliser ces deux audiences ?
Je pense que déjà, si tu pars avec l'idée en tête, enfin, en ayant conscience que c'est possible que les gens ne veuillent pas collaborer, parce qu'encore une fois, ça les sort d'une zone de confort qui ne... Voilà, un truc qu'ils ne connaissent pas, hein, je veux dire, notre métier, on arrive, on pense que tout le monde va être d'accord, mais c'est pas le cas, et que tout le monde va comprendre, et t'as raison, hein, c'est pas le cas. Je pense que déjà, si on part avec ça en tête, on s'arme un peu plus de temps et de patience pour prendre le temps d'échanger avec ces personnes et de montrer que, encore une fois, on s'adapte au rythme de chacun, on s'adapte aux envies de chacun, et que l'idée, c'est de co-créer ensemble. La sensibilisation, pour moi, elle passe déjà par un face-à-face avec une personne, parce qu'on n'a pas tous la même manière de comprendre les choses et de les comprendre, et de les écouter. Comprendre et comprendre. Note, c'est hyper important comme phrase. Comprendre et comprendre.
Ouais. Mais il y a peut-être deux manières de comprendre. Hein.
Voilà, et il y a d'autres manières de comprendre du coup. Et d'écouter, parce qu'en fait, certaines personnes vont mieux capter ce que tu fais parce que tu as pris le temps de leur expliquer. D'autres vont capter parce que tu leur montres directement, parce que tu es plus dans le concret. Donc c'est en s'adaptant à chaque personne, et ça passe aussi par une communication beaucoup plus large, où la chance que l'on a aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 50 ans, enfin même moins, c'est qu'on peut utiliser des médiums, plein de différents médiums, pour expliquer ce que l'on fait, pour essayer de le comprendre. Ça peut passer direct par les écoles de cinéma, comme par les réseaux sociaux, comme par être dans des cours de théâtre et montrer en fait comment on peut changer le game. Donc pour moi, il y a différentes manières de faire, mais encore une fois, il faut aussi avoir conscience que ça va prendre du temps, parce que ça demande énormément d'énergie aux gens, comprendre qu'on peut faire les choses différemment, surtout s'ils sont dans l'industrie depuis des années, et que c'est pour leur bien. Et je pense que dans certains milieux, ils n'ont pas l'habitude que ce soit pour leur bien, Et donc, ils se méfient et c'est normal. Et tu vois, j'ai encore parlé il y a quelques jours à une candidate de télé-réalité. Quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, elle était là. Mais moi, j'ai pas envie que tu viennes me voir et que d'un coup, tu dises « Bon, arrête d'embrasser tel machin. » Mais c'est pas du tout ce que j'ai prévu de faire. T'as pas compris. Je vais pas t'interdire de faire des choses. Au contraire, je vais t'inciter à en faire, mais plus dans une manière que t'as envie de faire, en fait, tout simplement. Donc c'est normal que des gens... Et de toute façon, on aura des personnes contre. On aura des personnes... qui ne voudront pas, c'est pas grave. Mais ça peut être bien d'ailleurs de dépenser un peu plus de temps et d'énergie pour essayer de comprendre où sont leurs freins et être un peu plus, peut-être un peu plus concret quand on essaie d'expliquer les choses aussi. Parce que ouais. C'est vrai que ça fait très théorique hein, comme métier, hein, quand tu l'exposes comme ça.
Oui, et puis ça peut faire peur et ça passe beaucoup déjà par l'éducation, mais ça me fait penser au métier de psychologue, de sexologue, où il y a beaucoup de réticence aussi à consulter, donc ça passe beaucoup, je le vois depuis qu'il y a l'éducation là-dessus, il y a eu quand même une certaine vague de personnes qui arrivent à consulter, il n'y a pas encore une autre vague qui est encore réticente, mais c'est normal, et c'est la même chose pour ce métier-là, où je pense que ça va passer déjà par l'éducation, pour informer sur ce qu'on fait, qui on est, nos limites aussi. De comprendre leurs peurs et leurs difficultés, parce que tant qu'on ne comprend pas ça, on n'avance pas, et de mettre un cadre aussi, du coup, pour exprimer de quelle manière on travaille, comme ça tout le monde sait, et ça va ou ça ne va pas, mais comme ça, si ça ne va pas, ça s'arrête directement, et si ça va, alors on peut enclencher dans ce processus un peu plus loin.
Mais bon, soyons réalistes, il y a la théorie, la pratique, et ça met du temps, et tant mieux s'il faut mettre ce temps-là. Mais au moins, déjà, il y a une volonté, en tout cas, d'essayer d'installer le truc. Et je trouve ça assez beau, parce que quand on y pense, MeToo, c'était il n'y a pas si longtemps. À échelle de l'histoire humaine, on vit une révolution sociale énorme, qui est très, très rapide grâce, tu vois, à tous les médiums. Et je pense qu'il faut parfois être tolérant avec le temps et avec... Est-ce que les gens ont réellement envie de comprendre dès le départ? Est-ce que les gens ont vraiment envie de s'investir autant que toi, quoi, tu vois?
Ouais, donc il faut aller là aussi où les gens sont déjà persuadés et convaincus au début et puis ensuite amener les autres doucement sur ce chemin-là. Mais il y a tellement à dire. Je voudrais qu'on parle peut-être là pour terminer sur cet épisode, mais nos grands rêves dans ce métier-là ou dans ce domaine-là. Toi, ça serait quoi ton rêve, ta vision d'aujourd'hui par rapport à si tu devais t'engager demain comme coordinatrice d'intimité, ça serait quoi le projet?
Ah, donc quel type de projet? Ouais. Tu vois, pour l'instant, mon rêve est vraiment bloqué sur la télé-réalité puisque c'est un milieu qui m'a marqué et pas dans le bon sens. Donc, je pense que mon rêve, ce serait un peu d'intervenir sur une télé-réalité grande écoute qui n'aurait plus en fait à se soucier de l'avant et de l'après, c'est-à-dire être là dès le début du casting, s'assurer que tous les candidats aient bien conscience de tout ce qui se passe, qu'ils se sentent safe, que les jours off, ils soient pas... Parce que pour l'avoir vu, les jours off de télé-réalité, c'est un craquage général, c'est là où il se passe tous les problèmes, c'est là où il se passe toutes les agressions, c'est là où il se passe toutes les violences. Mais qu'ils aient un vrai jour off, du coup, un vrai jour de repos, puisqu'ils auront un peu l'esprit et le corps un peu plus en paix, qu'il y a un retour à la vie derrière ce projet où ils se sentent accompagnés et pas lâchés dans la nature et que ce soit hyper violent pour eux. Donc, je dirais que mon projet, mon rêve absolu, ça serait d'intervenir dans cette télé-réalité que tout le monde voit à 18h. Il y en a plein, il y en a plusieurs, hein, mais voilà, qu'on puisse consommer un peu ces dramas à la con, tu vois, qu'on regarde et sur lesquels on rigole en disant « mais c'est trop bête, pourquoi ils s'embrouillent? Moi, à leur place, je serais en train de bronzer toute la journée. » Oui, c'est vrai, mais ils s'embrouillent parce que c'est pour ça qu'on regarde. Et de se dire, une fois que la caméra est coupée, ils dorment tranquillement, parce que je sais aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc ça sera un peu mon rêve, c'est un peu ça, c'est de faire la paix avec ces souvenirs qui me hantent encore.
Waouh, ouais, je te le souhaite.
Oui, merci.
De toute façon, t'es en chemin, donc en fait, c'est qu'une question de temps là maintenant, donc ça serait trop chouette, quoi.
Et toi?
Moi, je réfléchissais parce que c'est vrai que c'était assez flou en venant, parce que je me disais, il n'y a que le porno, donc je pensais là-dessus, mais finalement,
La formation, ça t'a aidé à trouver un peu.
Ouais, la formation, ça m'a aidé, et en fait, au final, ça évolue un peu au fur et à mesure. Mais je me dis, en fait, grand rêve, j'aimerais être coordinatrice d'intimité pour une plateforme comme Netflix, par exemple, et donc pouvoir être sur les séries qui font, ou les films, mais surtout les séries. Et voilà, là, je me dis, ça me booste, ouais, parce que ça me parle, c'est mon, C'est mon quotidien de regarder Netflix.
Je veux y être.
Je veux y être, quoi. Donc, bon, après, il y a plein de plateformes qui existent, mais je suis sûre que, voilà, de plus en plus, les plateformes comme Amazon, comme Netflix, comme Disney, bon, Disney, c'est peut-être différent encore, mais tu vois, vont embaucher aussi des coordinatrices, coordinateurs d'intimité pour leurs différents projets.
Complètement, et je pense que c'est, on est aux prémices, hein, l'arrivée de la plateforme, c'est quand même très nouveau, ça fait moins de 15 ans, moins de 10 ans même, donc forcément ces plateformes-là, ils vont devoir s'entourer de professionnels puisqu'ils produisent à une vitesse folle, ils sont obligés de s'entourer de personnes compétentes, quoi. Donc je sais qu'un jour, dans un générique, je vais voir ton petit blaze passer coordination d'activité Camille, et je serai là genre « Oh, c'est ma copine, elle a fait tout !» Non, je te le souhaite parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi et que ça peut être trop, trop intéressant.
Ah non, mais donc on va suivre nos actualités, vous suivrez aussi parce que là, on enregistre et donc cet épisode sera diffusé janvier 2024. Mais du coup, je ne sais pas quand vous, auditeurs, auditrices, vous l'écouterez, mais peut-être, ça sera peut-être même 2-3 ans après qu'on l'ait diffusé.
Oui,
et vous pourrez voir où on en est dans ces différents projets qui nous semblent fous. Toi qui te sembles peut-être un peu plus proche parce que tu as déjà le pied dedans, moi qui me semble un peu plus loin. Mais du coup, voilà, on se lance ces challenges-là, quoi.
C'est qu'une question d'opportunité, hein, donc toi en plus, tu parles beaucoup de ce que tu fais, tout ça. Suffit d'une personne qui soit en mode « Attends, elle a parlé de ça, mais moi j'ai besoin de ça » et c'est réglé, quoi, ça va très vite. C'est ça un peu le truc, c'est que aussi il ne faut pas oublier que comme c'est très récent et très nouveau, il n'y a pas de chemin à suivre en mode « je fais telle étude, je fais un stage et je machin », il n'y a pas de parcours, quoi. C'est juste une question d'opportunité, de contact et voilà, quoi, hein. Donc c'est un peu la jungle, disons-le.
Mais on a des parcours atypiques et donc oui, c'est super intéressant aussi comme corde à nos arcs. On s'envoie des fleurs.
Oh, écoute, ça fait du bien. Non, mais attends, il fait froid, là, c'est l'hiver. Prenons un peu des fleurs, voilà.
Mais on commence l'année 2024, tu vois, avec un grand boost. Et c'est bien, en fait, de finalement commencer avec ces grands projets parce qu'on pourra faire un topo fin de l'année et voir
grave,
où on en est et tout. Donc, c'est
grave chaude. C'est vraiment top. On se donne rendez-vous dans un an.
Manon, est-ce qu'on peut te retrouver là, les personnes qui ont adoré t'écouter, ta vibes, ce que tu transmets et qui ont envie de te suivre encore plus loin?
Alors, si vous voulez me suivre, je suis sur les réseaux avec un compte Instagram qui s'appelle Le Cunu. Donc, on est sur une communauté qui s'agrandit, ça fait du bien. Où je parle un peu plus de culture du cul, mais où, comme on disait, hein, toi et moi, je vais forcément parler un peu plus de mes expériences en coordination parce que je pense que typiquement, c'est un média qui peut grave aider pour montrer un peu l'impact du métier, tu vois. TikTok aussi, mais je ne suis pas trop. Et sinon, c'est tout con, mais j'en parle de plus en plus sur LinkedIn où je partage un peu mes expériences aussi, même si je n'aime pas trop cette plateforme. Mais n'hésitez pas à suivre toutes les petites aventures.
Super, les aventures en pleine nature. ça, c'est un autre podcast, mais
t'as
un podcast aussi.
Il s'est arrêté, la Hotline, ça s'est arrêté, mais je vais lancer le mien dans les prochains mois. C'est en maquette. Elle a teasé, j'adore le
projet.
Teasing,
donc on va suivre ça au cours de l'année aussi. Trop bien, Manon, merci beaucoup. Hein. C'était un échange
comme
ça, informel. J'aime bien quand on s'assoit comme ça et qu'on papote.
Ouais, j'aime bien aussi, grave. C'était trop grave. Merci de m'avoir invitée, c'était très chouette. Et puis, je suis grave chaude pour qu'on se fasse un compte rendu de toutes nos expériences dans les prochains mois, années. Ça peut être très drôle.
Yes, on suivra tout ça.
Cool.
Gros bisous.
Merci, bisous.
Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Manon. J'espère que vous avez apprécié cet épisode tout en familiarité, où on a échangé entre nous deux parce qu'on se connaît assez bien grâce à cette formation qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées de suivre une formation, alors la formation qu'on a faite, elle est en anglais. Elle s'appelle la Red Chicks Academy et c'est avec Easy, je vous mets dans les notes de l'épisode. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, sur Apple Podcasts, vous pouvez voir ça. Ou me contacter en DM. Vous contactez Easy, vous dites que vous venez de ma part, du podcast, donc de Camille Bataillon, découvert sur Camille Parle Sexe Podcast. Voilà, c'est en anglais. Il y en a peut-être dans le futur qui arriveront en français. Et voilà, c'est un métier en devenir, comme on vous l'a dit. Pour ma part, j'ai hâte de commencer mes premiers projets avec cette nouvelle casquette. Comme je disais à Manon, pour moi, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Donc voilà, j'espère et mon rêve pour 2024, c'est de commencer un projet justement en tant que coordinatrice d'intimité. Donc je commence à lancer les appels, les projets, etc. Si jamais vous êtes quelqu'un du milieu du cinéma, des séries, de la production, peu importe, et que vous cherchez justement une coordinatrice d'intimité pour votre prochain projet, envoyez-moi un email à hello@cabibataillon.com pour qu'on en discute. Enfin, pour les professionnels, encore une fois, qui nous écoutent ici là, sur le podcast, j'ai lancé, là, tout début d'année 2024, une nouvelle formation pour les professionnels, kinés, sages-femmes, sexologues, thérapeutes de couple, psy, etc. Cette formation, c'est sur la sexopérinatalité, donc comment accompagner au mieux notre patientèle, clientèle qui passe par une grossesse, un projet bébé, un accouchement, le postpartum, tout ça en lien avec la vie intime. Comment on accompagne cette clientèle, que ce soit pour la personne enceinte qui a accouché et pour le couple finalement, couple hétérosexuel, couple lesbien. Vous aurez plein d'informations là-dessus. C'est en 6 modules et dans chacun des modules, il y a plusieurs outils pour votre pratique et surtout aussi des cas cliniques qui vont vous aider aussi à savoir naviguer avec cette thématique. Si vous souhaitez un code promo avant d'acheter, envoyez-moi un DM sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou un email à hello@camillebataillon.com. Je vous remercie encore à tout le monde, là je parle pas que les professionnels, à vous qui m'écoutez depuis le début de cet épisode, voire même depuis plusieurs épisodes, je vous remercie encore une fois pour vos écoutes, pour vos partages. Et quand je parle de partage, pourquoi c'est important? C'est parce que finalement c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux dans les podcasts et donc souvent ce qui fonctionne c'est d'envoyer un épisode coup de cœur à un ami, à une voisine, à des collègues, sur un groupe Facebook, sur n'importe quoi, dans votre famille, etc., dans votre groupe WhatsApp de votre famille, dire cet épisode, il est génial, je pense que ça pourrait vous intéresser. C'est ça qui fonctionne le mieux. Merci encore pour votre confiance et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles expériences intimes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.